Est-ce qu'ils sont ils, elles, là? Salut les pirates, est-ce que vous m'entendez?
Croyez vraiment que les pirates n'auront bientôt plus droit de rêver?
Prêts les enfants?
Oui, capitaine!
J'ai pas entendu!
Oui, capitaine!
Wow!
Radio.
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 Radio. Pirates!
Reprend le droit de rêver puisque la contestation de la loi dite sécurité globale a fait l'objet samedi dernier d'une très forte mobilisation dans beaucoup de villes de France. Il y aurait eu 200 000 manifestants et manifestantes à Paris et 500 000 dans toute la France selon les orgas et les syndicats. Alors j'ai pas mis les chiffres du ministère de l'Intérieur car ce qui sort du ministère de l'Intérieur reste au ministère de l'Intérieur s'il vous plaît. Donc une mobilisation assez massive et qui va se poursuivre puisqu'une seconde mobilisation est prévue samedi prochain. Et cette mobilisation elle fait suite au refus populaire de la loi dite sécurité globale qui met à mal la liberté de la presse et tend à rendre encore plus opaques les cas de violences policières tout en renforçant celle-ci de manière toujours plus autoritaire. Elles font suite aussi aux nombreux cas rendus très visibles de violences policières et qui se sont traduits dernièrement, notamment par l'évacuation extrêmement violente des sans-abri qui s'étaient installés place de la République et à l'affaire Michel, le producteur de musique noire qui a été tabassé et insulté par des policiers dans son studio. Donc ce soir, nous recevons Nathalie du Bureau national de la Ligue des droits de l'homme. Et avec vous, Nathalie, donc, est-ce que vous pourriez nous présenter la Ligue des droits de l'homme et nous en faire un bref historique, s'il vous plaît?
Alors, problème de pirate, comme d'habitude. Est-ce que Madame Théo, vous nous entendez ou pas? On doit avoir un petit souci avec Madame Théo. Donc, ce que je vous propose, c'est que le temps qu'on règle ce petit souci, on écoute une rapide musique, on revient juste après. Donc la musique que nous allons passer pour vous occuper en attendant, c'est une musique de Chaviré qui s'appelle « Sur aucune carte ». À tout de suite.
Power!
Désolé pour ce petit problème technique juste avant les pirates. Nous sommes bien de retour sur Radio Pirate et nous sommes pour cette première partie d'émission avec Nathalie du Bureau National de la Ligue des Droits de l'Homme. Nathalie, est-ce que vous pourriez nous présenter la Ligue des Droits de l'Homme et en faire un bref historique si vous voulez bien ?
Oui, bref, mais la Ligue est ancienne. Donc elle a été créée en 1898. C'était le combat à l'époque, c'était pour le capitaine Dreyfus, et c'est ce qui a mené des personnes à se mobiliser contre le racisme, puisque c'était un problème d'antisémitisme, mais aussi contre l'injustice, contre les atteintes aux libertés publiques. Donc le nom même de la Ligue, c'est en référence à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et c'est la raison pour laquelle le vrai nom de la Ligue, c'est la Ligue des droits de l'homme et du citoyen. C'est en référence à ce texte, puisque c'est un combat pour les droits. Et le premier président était Ludovic Trarieux, qui avait témoigné pour Émile Zola lors de son procès. Alors après, je vais passer tout de suite, parce qu'il faut faire court, à Victor Bache, qui va se mobiliser avec les antifascistes italiens qui étaient exilés, avec les Espagnols qui étaient exilés aussi dans leur combat contre Franco qui était réfugié en France. Je dis cela parce que ça veut dire qu'il va y avoir très très vite un sentiment international aussi, et la Ligue va être à l'origine de la Fédération internationale des droits humains. Et ensuite, c'est au siège de la Ligue qu'a été signé le pacte fondateur du Front populaire, donc on voit bien que la Ligue est très ancrée à gauche. Et il va y avoir très vite aussi, en 1936, une extension des droits de l'homme et du citoyen, qui était vraiment le cœur civil et politique, hein, les droits civils et politiques, et ça va s'étendre vers les droits économiques et sociaux et culturels, et pour une indivisibilité des droits. Ça, c'est vraiment le cœur de la Ligue, l'idée d'indivisibilité et d'universalité des droits. Et actuellement, on est en train de réfléchir sur l'ouverture vers de nouveaux droits encore. Alors, pendant la guerre, Victor Bache et sa femme vont être assassinés. Et après la guerre, il y a René Cassin, qui est un ligueur, qui va être un des rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, vous voyez qu'on est très présent sur la question des droits. Parmi les grandes figures, c'est Robert Badinter, Henri Leclerc, Michel Tubiana. Et en ce qui me concerne, moi, j'ai connu la Ligue par Michel Tubiana, puisque un des grands combats de la Ligue, ça a été contre le colonialisme, notamment pendant la guerre d'Algérie, évidemment, un gros engagement contre le colonialisme. Et moi, je viens de Nouvelle-Calédonie, et du coup, mon père est avocat, et il était le seul avocat des Kanaks, des indépendantistes. Et du coup, Michel Tubiana était venu en Calédonie pour aider mon père, qui a créé la Ligue des droits de l'homme en Nouvelle-Calédonie. Et c'est la raison pour laquelle je soutiens maintenant, je suis très militante, puisque je suis même maintenant extrêmement engagée au sein du Bureau national.
D'accord, merci beaucoup Nathalie. Et donc vous êtes là en tant que membre de la Ligue des droits de l'homme, mais vous êtes aussi pas la seule organisation mobilisée dans ces manifestations contre la loi sécurité globale. Et est-ce que vous pouvez nous parler aussi des autres organisations qui se mobilisent à vos côtés ?
Oui, alors il y a beaucoup d'organisations actuellement. On a été très très vite contre cette loi, parce qu'elle nous paraissait globalement, d'ailleurs, pour reprendre ce terme, globalement néfaste, et nous militons contre cette loi en totalité, parce qu'il n'y a pas que la question des problèmes vis-à-vis des drones, de la surveillance généralisée des citoyens, mais il y a aussi la question de l'interdiction de diffuser les images, qui va aboutir à poser problème pour le travail des journalistes. C'est l'article 24, hein, le travail des journalistes, mais aussi des observateurs. Moi, je fais partie de l'Observatoire parisien des libertés publiques. Donc, si nous n'avons plus la possibilité de filmer parce qu'on risque de nous accuser de diffusion derrière, ça veut dire qu'on ne peut plus exercer notre contre-pouvoir citoyen. Donc, on a eu toute une mobilisation, notamment, bien sûr, avec les journalistes, en fédérant, en travaillant avec eux, avec tous les syndicats de journalisme, avec les reporters, avec les réalisateurs. Ça a vraiment été une mobilisation très, très importante. Et à partir de là, ça a donné aussi beaucoup de visibilité médiatique, évidemment, quand on travaille avec des reporters, avec des médias, et ça a permis que d'autres associations, d'autres syndicats se greffent dans une coordination, et ça fait une force de frappe beaucoup plus importante.
D'accord, d'accord. Et du coup, en ce qui concerne cette loi, ce projet de loi sécurité globale, on a beaucoup focalisé l'attention sur l'article 24, donc qui, comme vous nous l'avez dit, porte atteinte à la liberté de la presse. Mais ce n'est pas le seul article liberticide de cette loi. Est-ce que vous pouvez aussi nous dire un mot des autres articles qui posent problème dans cette loi et les revendications qu'a la Ligue des droits de l'homme vis-à-vis de ces articles-là?
Oui, alors c'est plus que la liberté de la presse, bien sûr, c'est une atteinte à la liberté de la presse, mais c'est la liberté d'informer de façon générale. Et je dirais qu'il y a aussi cette idée de la déclaration, c'est-à-dire que toute administration doit s'exercer devant les yeux du public, de façon publique, et c'est ça qui pose problème, puisqu'on voudrait que les policiers puissent faire ce qu'ils veulent, sans qu'il y ait de regard, de visibilisation par les médias. Et on voit bien que c'est par les vidéos que le grand public découvre les problèmes de violence policière et les problèmes aussi de racisme. Et donc, les autres articles de loi posent également question, parce que je venais de dire qu'il y a aussi cette question de surveillance généralisée. Eh ben, c'est le fait des drones, le problème des drones, puisque donc la Ligue a porté un combat contre les drones et a gagné devant le juge des référés du Conseil d'État en ce qui concerne l'emploi des drones pendant le confinement, le premier confinement, ça c'était à Paris. Donc là, on a gagné, mais là, cette loi va permettre l'utilisation des drones, et d'ailleurs de façon très générale. Ce n'est pas seulement sur les manifestations, mais c'est très, très général, puisque ça peut être le littoral, le trafic routier, ça peut être énormément d'endroits où il va y avoir la possibilité d'utiliser des drones. Et quand on sait la puissance des caméras, la possibilité de filmer la nuit, la possibilité d'avoir un grand champ ou au contraire de zoomer, on se dit que vous allez pouvoir être filmé dans votre jardin. Donc, c'est un gros problème d'atteinte à l'intimité privée, sans qu'il y ait de réflexion qui ait été accordée sur pourquoi, à quoi ça sert, quelle va être l'utilité. Alors, bien sûr, d'un point de vue de l'État, la surveillance, c'est toujours utile, mais nous sommes censés être en démocratie et pas en dictature, parce qu'en dictature, un État qui surveille, c'est évident. Il va essayer de surveiller au plus près ses citoyens et toute personne qui habite sur son territoire. Mais quand il s'agit d'une démocratie, il devrait y avoir à chaque fois une balance avec des grands principes, comme les principes de liberté publique, mais aussi avec la vie privée, le respect de la vie privée. Donc là, il n'y a aucune réflexion qui ait été menée, et c'est aussi lié au choix du gouvernement de faire une procédure, de passer par la proposition de loi et non pas par un projet de loi, parce que de ce fait, il n'y a pas eu d'étude d'impact, il n'y a pas eu d'avis du Conseil d'État, du fait que c'est une proposition de loi. Donc, on n'a aucune réflexion sur est-ce que c'était vraiment utile de généraliser l'emploi du drone. Et est-ce que c'est utile aussi de faire que les images qui vont être captées par les policiers lors des caméras, qui sont portées par les policiers, est-ce que ça va être vraiment utile que ce soit envoyé en temps réel au centre de commandement? Ça aussi, ça pose problème. Ça pose problème parce que ça veut dire que lors des manifestations, on va peut-être pouvoir suivre des contestataires. Et pourquoi pas, on se pose la question, est-ce que ce ne sera pas couplé avec un fichier qui existe déjà, le fichier qui est le traitement d'antécédents judiciaires, où nombre de manifestants, dès lors qu'ils sont passés en garde à vue, même s'il n'y a rien eu finalement contre eux, sont fichés du seul fait de la garde à vue dans ce fichier. Et sur ce fichier, il y a la possibilité d'avoir de la reconnaissance faciale. Donc on se pose cette question-là. Est-ce que ça ne va pas être couplé? Surtout dans cette loi, il y a aussi la possibilité pour ceux qui sont sur place, donc qui sont par exemple sur les manifestations en train de filmer, ils vont avoir la possibilité d'avoir accès eux-mêmes aux images. Alors que jusque-là, la CNIL avait dit qu'il y avait une garantie, il ne fallait pas que ce soit eux-mêmes qui puissent avoir accès aux images, mais que ce soit un enquêteur dans le cadre d'une enquête. Donc s'ils ont accès aux images, moi je me pose la question, est-ce qu'ils ne risquent pas de détruire des images qui les montreraient en action commettant des violences illégitimes, par exemple? Et puis, est-ce qu'il, donc, en clair, est-ce qu'il n'y a pas un risque de trafiquer les images? Et il ne faut pas oublier que ce qu'a dit la préfecture de police de Paris et le ministre de l'Intérieur, c'est qu'on était dans une guerre des images, une guerre de la communication. C'est ce qui est aussi rappelé dans le schéma national du maintien de l'ordre que nous attaquons également. Donc voilà, on est mobilisé aussi contre cette extension de la surveillance des citoyens, mais nous sommes aussi mobilisés contre une surveillance qui va être autre par la police municipale. Mais peut-être que vous avez déjà des questions sur cela, je suis peut-être un peu longue.
Non, c'est très bien, c'est très intéressant jusque-là, donc il n'y a aucun souci, faut pas hésiter à développer. On pourrait prendre déjà une question du chat sur le, parce que du coup on est en live sur Twitch et du coup les gens peuvent nous poser des questions. Et on a Drolif qui nous pose une question. Est-ce que l'on ne risque pas une privatisation de la police et ainsi avoir un risque de fuite des données sensibles vers des organismes privés qui pourraient s'en servir par la suite hors de tout cadre légal? On sait que c'est un problème qui peut arriver déjà.
Pour l'instant, c'est pas encore le cas. La fuite de données, c'est pas encore possible par cette loi, mais on voit bien qu'il y a des dérives. Alors, dérives, je disais, par le fait de transférer des pouvoirs régaliens à la police municipale, puisqu'ils vont pouvoir verbaliser concernant des infractions du code pénal, alors que jusque-là, ils ne pouvaient verbaliser que concernant des infractions à des arrêtés du maire. Donc, c'est logique, hein, puisqu'ils sont reliés municipales, c'est relié à la commune, donc du maire. Mais là, ça va être des infractions qui sont pour tout un chacun, qui du code pénal. Donc ça, on voit bien que on a une extension de compétences qui aboutit à ce que les gens ils vont plus tellement faire la différence entre police nationale, police municipale et agents de sécurité privée. Cette loi, elle touche aussi les agents de sécurité privée en ce sens qu'elle va donner du pouvoir pour intervenir sur la voie publique en dehors de ce qui existe déjà, parce que pour l'instant, sur la voie publique, les agents de sécurité privée ne peuvent être qu'aux abords des lieux qu'ils protègent, par exemple aux abords d'un théâtre, aux abords d'une enceinte sportive, là, et sinon poursuivre, par exemple, pour les convoyeurs de fonds, ce qui est assez logique. Mais là, ça va être aussi en matière de terrorisme. Alors, le problème, c'est que la notion de terrorisme, quand on le dit seulement comme ça, c'est extrêmement vague, extrêmement flou, et on ne voit pas très bien ce qu'ils vont pouvoir faire, alors que c'est du ressort, normalement, de police spécialisée. Donc, on a cette problématique-là et il n'y a pas que la loi qui est en cause dans ce cas-là. Il y a aussi le livre blanc de la sécurité qui est sorti juste après la proposition de loi. Et on voit bien qu'il y a le livre blanc parle de continuum de la sécurité, c'est-à-dire qu'ils veulent mettre ensemble les policiers, les polices municipales, enfin, quand je dis policiers et gendarmes, hein, les polices municipales et les agents de sécurité privée. Donc, pour l'instant, ce n'est pas encore la possibilité pour les agents de sécurité privée d'accéder à des fichiers, mais on voit bien que c'est une dérive. Et pour les policiers municipaux, ils donnent accès aussi à des fichiers qui, jusque-là, leur étaient interdits. Ils vont pouvoir aussi mettre en fourrière, ils vont avoir beaucoup plus de pouvoir. Donc, ce continuum de sécurité, il inquiète. Inquiète parce que cela signifie qu'on donne des pouvoirs régaliens à d'autres que ceux qui sont en charge du point de vue étatique et qui sont reliés à de la police judiciaire. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi une garantie. Quand on est police judiciaire, on est rattaché au procureur de la République, c'est-à-dire à la justice, qui a un pouvoir de contrôle sur la qualification notamment d'OPJ, d'officier de police judiciaire. Ce n'est pas le cas quand on est policier municipal, et encore moins quand on est du privé, dans le secteur privé. Donc ça, tout cela, ça inquiète beaucoup. Et ce qui inquiète aussi, c'est que la justification, c'est de dire, c'est se recentrer pour les policiers, ça va leur permettre de se recentrer sur leur cœur de métier. En ce qui me concerne, je me dis, mais c'est tout un discours managérial qui me paraît également inquiétant, puisque ça aboutit à chaque fois à éliminer finalement des missions qui étaient dévolues normalement à un service public. On va les donner à du privé. Ça, c'est une inquiétude que j'ai, effectivement. Et que j'ai, que la Ligue.
On parlera aussi jeudi prochain dans une autre émission des dérives autoritaires, un petit peu dans leur globalité, notamment avec un autre projet de loi qui est prévu pour la semaine prochaine. qui est celui contre le séparatisme, qui risque aussi de livrer quelques surprises, pourrons-nous dire, sur ce côté-là. Donc, on aura une autre émission là-dessus jeudi prochain. Donc, n'hésitez pas déjà à la noter dans votre agenda. Pour revenir un petit peu sur cette mobilisation contre le projet de loi sécurité globale, à la Ligue des droits de l'homme, vous avez été très présent sur les dernières semaines. Vous avez utilisé plusieurs stratégies et dispositifs pour mobiliser les citoyens. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de tout ce que vous avez mis en place à la Ligue des droits de l'homme?
Oui, alors on a effectivement été, on a essayé de faire ce qu'on connaissait déjà, hein, par exemple les plateformes d'interpellation des députés. Et c'est vrai qu'il y a eu une forte mobilisation. Il y a eu environ 13 000 personnes qui ont interpellé les députés via une lettre qui était pré-rédigée et avec un choix en fonction de là où on habitait pour interpeller ces députés. Ça a été donc très, très utilisé. Et du coup, il y a eu des retours de nombre de députés qui d'habitude n'écrivent pas. Et là, ils ont essayé de répondre. Mais bon, ce sont des choses qu'on avait déjà initiées. Il y a eu beaucoup d'investissements, bien évidemment, du président, des anciens présidents de la Ligue, de tout le bureau d'ailleurs, aussi bien à l'intérieur de la Ligue pour expliquer notre combat que vis-à-vis du public. Par exemple, Henri Leclerc, vous me disiez que vous l'aviez entendu sur France Inter, mais voilà, ça fait partie des figures médiatiques qui s'engagent, et Ari Halimi, par exemple. Et puis, on a eu la participation à des vidéos contre le projet de loi, la proposition de loi, pardon, qui a été initiée par David Dufresne. Moi-même, j'ai fait une petite vidéo, parce qu'il ne faut pas faire long, hein, c'est une minute, en tant qu'observatrice pour expliquer pourquoi je me mobilisais. Nous avons fait un certain nombre la participation effectivement au collectif pour essayer de mobiliser le plus largement possible. En ce qui concerne les observatoires, nous avons fait une lettre ouverte aux députés pour expliquer également, alors à la fois contre l'article 24, mais aussi contre la question des drones et des caméras piétons. Et puis, nous avons essayé de façon concrète de permettre aux gens de venir, de se mobiliser, parce que nous sommes en confinement et que c'était compliqué. C'est pas comme d'habitude, hein, pour venir manifester, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, on a fait tout un kit de manifestations. Et avec une fiche tutoriel pour expliquer comment faire pour vis-à-vis de policiers, et notamment parce qu'on a, malheureusement, nous sommes aussi très très engagés dans les contestations de contraventions, enfin des contraventions Covid, hein, ce que j'appelle les contraventions Covid, et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup beaucoup d'arbitraires dans les verbalisations. Et de ce fait, c'est pour ça qu'il y a des conseils pratiques dans la fiche tutoriel pour expliquer comment faire, pour expliquer aux policiers que l'attestation officielle sur le site du ministère est facultative, ça a été jugé par le Conseil d'État, que donc on peut écrire à la main ou bien faire une attestation qui soit dans la seule mesure où on respecte le cadre et on explique quel est le cadre légal et réglementaire. Et donc, à côté de cela, on a fait une attestation de déplacement dérogatoire toute prête. Et là, ça a été téléchargé sur le site plus de 20 000 fois. Donc, vous voyez que ça a eu beaucoup de succès. D'ailleurs, on vient souvent nous le dire quand on est sur les manifestations. Les gens nous disent « Ah, merci pour l'attestation ». Ça fait plaisir. Et puis, on a évidemment fait aussi l'attestation de déclaration de manifestation parce qu'on ne peut se déplacer que pour une manifestation. Donc, on a les deux éléments pour pouvoir dire « Voilà, les personnes vont bien ». Cette manifestation peuvent présenter aux policiers pour éviter une verbalisation. Ceci dit, on n'empêchera pas l'arbitraire, donc si ça arrive, eh bien, il faudra contester, évidemment.
Oui, bah, du coup, c'est vrai que ça a été un réel soutien, notamment, bon, bah, sans vous trahir de secret, pour moi le premier, ça a été très pratique pour moi, toutes ces attestations que vous avez pu fournir. Du coup, on va parler un petit peu forcément de l'immense mobilisation qu'il y a eu samedi dernier. Alice a cité les chiffres, les organisateurs disent 200 000 à Paris, 500 000 à travers toute la France. On a vu aussi des publics très différents. On était entouré notamment beaucoup de primo-manifestants ou alors des gens qui ont réveillé chez eux un côté militant qui n'avait pas éveillé depuis plusieurs années. Quel bilan vous tirez, vous, de ces mobilisations que vous avez pu organiser? Il y en a eu deux, une première au Trocadéro il y a maintenant 10 jours et puis une deuxième à travers toute la France et à travers le cortège République Bastille à Paris. Est-ce que vous étiez satisfait, etc. Et quelles conséquences ça a eu pour vous cette forte mobilisation malgré la période de confinement?
Bah, il y en a eu trois, en fait, hein, parce qu'il y avait le 17
oui,
novembre, derrière,
oui,
derrière l'Assemblée nationale. C'était le premier jour où l'Assemblée nationale discutait de la proposition de loi. Et déjà, c'était vraiment une très, très forte mobilisation, puisque la place où les manifestants devaient se réunir était complètement pleine, et ça a débordé sur tout le boulevard Saint-Germain. Et vraiment, ça a été extrêmement, ça fait chaud au cœur hein, de voir que les gens se mobilisent pour la défense de leur liberté publique. Ça fait vraiment chaud au cœur. Et là, samedi dernier, c'était assez impressionnant, effectivement, de voir autant de personnes et de tous horizons qui se mobilisent. Et c'est vrai aussi, on a des retours de sections, puisque toutes les sections en France se sont mobilisées, les sections de la Ligue. Et je commence par exemple hier, j'étais en visio dans une réunion avec Marseille et ils me disaient qu'il y a eu à peu près 5000 personnes. Donc c'est à Bordeaux aussi, ils ont eu à peu près ce chiffre-là, ce qui est très 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 important. Donc on voit qu'il y a une forte mobilisation. Bien sûr que ça fait chaud au cœur, mais il ne faut pas se leurrer. Il faut continuer le combat parce que il se trouve que les autres, comme je disais, hein, sur la police municipale, sur les agents de sécurité privée, c'est peut-être plus technique et les gens le voient moins, mais c'est très dangereux et donc il faut se mobiliser. Et intervient également la prochaine loi dont vous allez faire, vous allez faire votre prochaine émission, mais vous savez que l'article 24, il est prévu, enfin, il est proposé de le transférer dans cette loi.
Oui, dans l'article 25 de la loi.
Voilà, dans l'article 25. Donc ça veut dire que le combat, il continue et nous sommes déjà mobilisés contre la prochaine loi, effectivement.
Bon, bah, on est ravis de le savoir, puisqu'on espère que ça sera aussi efficace du coup que la première mobilisation. Pour finir avec vous rapidement, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu où vous en êtes là, jeudi soir, à la Ligue des droits de l'homme? On sait qu'il y a eu des annonces, parfois claires, parfois peu claires, de la part du gouvernement sur de potentielles modifications de l'article 24, mais vous l'avez dit, c'est finalement un peu l'arbre qui cache la forêt. Sur ce projet de loi. Qu'est-ce que vous pensez, vous, un petit peu de la suite qui a été donnée à de la mobilisation de samedi? Est-ce que vous avez pu déjà tirer un petit bilan sur les premières annonces qui ont été faites?
Mais sur l'article 24, je ne vois même pas comment ils vont pouvoir le réécrire, puisque c'est le principe même qui pose problème. Dans la mesure où, évidemment, quand on vous dit que la diffusion des images, ce sera plus possible, et dès lors que ce sont des policiers, sauf RIO, c'est-à-dire le matricule, mais comme ils ne le portent pas, c'est généralement sur les manifestations, ça va pas faire grand-chose. Mais c'est le principe même. Alors, on nous dit que c'est seulement si c'est malveillant, mais ça n'empêchera pas les policiers de considérer que dès lors qu'on filme, c'est forcément malveillant.
Oui.
Lorsque, en novembre 2019, des observatoires de l'Observatoire parisien ont été frappés, ça a été la LDH, on vous avait dit de ne pas filmer. C'est ça qui pose problème. C'est que les policiers, alors même qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui empêche de filmer, considèrent déjà que ce n'est pas possible parce qu'ils savent très bien qu'il y a un risque de diffusion derrière. Donc, les policiers vont empêcher les journalistes, empêcher les observateurs de filmer au motif que derrière, il pourrait éventuellement y avoir une diffusion malveillante. Et ça n'empêchera pas que si on est placé en garde à vue, eh bien on n'aura pas pu filmer, on n'aura pas pu observer, on n'aura pas pu informer le public. Donc c'est le principe même de l'article qui pose problème. Et je ne vois pas comment ils vont pouvoir le réécrire. Donc bien sûr qu'on n'est pas satisfait et puis de toute façon, on est contre toute la loi. Enfin, toute la loi, quasiment, pas tout, mais grosso modo, on est contre toute la loi, donc on ne peut pas se satisfaire d'une simple réécriture.
Ouais, il y a une philosophie générale qui est adoptée et une tendance qu'on voit depuis plusieurs années. J'en discutais hier avec vous au téléphone, avec la loi anti-casseurs, la généralisation de l'état d'urgence à l'état d'urgence terroriste de l'année 2015-2016.
Oui,
c'est philosophie que vous dénoncez.
Contre lesquelles on était déjà mobilisés, d'ailleurs.
Oui. Voilà, donc c'est une philosophie générale. On essaiera d'y revenir du coup et la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Merci en tous les cas pour toutes les précisions que vous nous avez données. Du coup, on rappelle
que
vous appelez à une nouvelle mobilisation à travers toute la France et là où vous avez des sections. C'est bien ça. Donc peut-être à titre d'information, où est-ce que se déroulera la manifestation à Paris?
Alors là, il est prévu à 14h porte des Lilas. Après, on aimerait faire une autre mobilisation plus importante la semaine suivante. On va voir.
Oui, ben on vous invite du coup à suivre la Ligue des droits de l'homme sur l'ensemble de leurs réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram, pour avoir toutes les informations, les attestations et les déclarations de manifestation. Et puis, on vous invite à nous rejoindre dans les différents cortèges qui se dérouleront dans les semaines à venir. Merci beaucoup, Madame Théot,
de votre présence.
C'était très gentil. On va faire une petite pause musicale avant d'interroger Clément de l'UCL Tour. C'est une musique que vous avez l'habitude d'entendre désormais. La musique d'un de nos pirates qui est pianographe. On va s'écouter Safe Haven et on revient dans 3 minutes 30 pour parler un petit peu des mobilisations en dehors de Paris. À tout de suite. De retour sur les ondes de Radio Pirate avec du coup Clément qui est de l'UCL Tour. Bonsoir Clément.
Bonsoir.
Voilà, l'objectif de ta présence ce soir, c'est de défocaliser un petit peu cette attention très parisiano-centrée parfois sur les mobilisations, etc. Donc on va parler un petit peu avec toi de comment ça se passe les mobilisations en dehors de Paris. Mais avant de commencer, puisque tout le monde ne connaît pas forcément l'UCL, qui est du coup l'Union communiste libertaire, c'est bien ça ?
Ouais, c'est ça.
Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce que c'est l'UCL, comment ça s'organise et un petit peu la ligne politique, si vous avez une ligne peut-être particulière au niveau de Tours, mais voilà.
Oui, bien sûr. L'Union communiste libertaire, donc c'est une organisation qui est née de la fusion entre deux des principales forces anarchistes en France, donc l'Alternative libertaire et la coordination des groupes anarchistes. Donc c'est une force d'extrême gauche, mais qui est assez jeune en termes d'existence, on va dire, puisqu'elle a un an et demi, je n'ai pas tout à fait le calendrier en tête. Elle se propose donc de construire ou de participer à la construction d'une société écologique sans classe, donc que ce soit des classes sociales, économiques, des classes de race, des classes de genre, et plus généralement dépourvus, libérés de toutes les oppressions, discriminations, aliénations de la société actuelle dans laquelle on vit. Donc elle porte un discours critique contre le capitalisme, le racisme, le patriarcat qu'on essaye de combattre et de constituer en fait une forme de contre-pouvoir en fait pour faire avancer nos revendications, enfoncer les coins de chaque oppression à chaque fois qu'on les trouve, à chaque fois qu'elle se présente face à nous. On défend en termes de modèle, d'organisation qu'on applique pour nous et qu'on voudrait voir advenir. On défend donc un modèle d'auto-organisation, de démocratie directe et qu'on essaye de porter dans les luttes en défendant, par exemple, c'était le cas, je parle pour Tours, mais les Gilets jaunes, c'était national, mais en tout cas à Tours, une de nos actions, ça a été vraiment de pousser pour l'organisation par Assemblée Générale. Bon, c'est un exemple très, très spécifique, mais il est assez parlant, puisque ça appartenait pas forcément à la culture militante de nombreux Gilets jaunes. Ça peut être aussi de dénoncer les discours confusionnistes, conspirationnistes, etc. Plus spécifiquement à Tours, notre action, nos axes principaux, on est présent au sein du réseau féministe local et ainsi qu'au sein du collectif antifasciste Tourangeau. Au-delà de nos...
On parlera dans un deuxième temps de l'intersectionnalité du coup de votre mouvement.
Ouais, ok.
Okay. Est-ce que du coup, alors du coup pour nos auditeurs et que je ne passe pas pour quelqu'un de pédant, je ne suis pas parisien, du coup quand j'utilise le terme province, c'est pas négatif, j'en ai pas trouvé d'autres, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu as vécu toi la mobilisation du coup sur Tours dans une ville qui est, on va dire, pas d'un profil militant extrêmement important en général, comment s'est passée la mobilisation vous sur samedi dernier déjà et par rapport à ce projet de loi sécurité globale?
Évidemment, on n'est pas sur les chiffres parisiens, on est d'accord qu'en termes d'échelle, c'est quand même pas du tout la même chose, mais en revanche, c'était une mobilisation qui s'est super bien passée, on était très nombreux, surtout en sortie de confinement, enfin c'est assez rare de rassembler autant de gens dans la rue à Tours, on était, j'ai entendu des chiffres différents, mais on va dire presque 5000, et surtout en termes de densité, on a cette place centrale qui est la place Jean Jaurès et qui était vraiment noire de monde, on était les uns sur les autres. C'était beaucoup de, comment dire, beaucoup de bonne humeur et beaucoup de gens qui étaient très contents de voir ou de revoir des gens qu'ils n'avaient pas vus depuis longtemps ou qu'ils imaginaient pas voir à cette manif ou qui simplement en sortie de confinement n'ont pas vu grand monde. Et donc la manifestation elle joue aussi ce rôle social de se dire, mais en fait, on est très nombreux, on est visiblement, manifestement très nombreux. Et donc, ça a été... pour moi, c'est une manifestation qui est vraiment réussie, en tout cas dans le contexte tourangeau. On n'atteindra jamais les chiffres de Paris, c'est sûr. On est 100 000 dans la ville, donc c'est pas...
Du coup, c'est 5 000, c'est déjà très, très 100 000, bien. Ouais, forcément. je voulais... Du coup, c'était intéressant ce propos que tu as eu là sur la... Tu as eu ce côté intersectionnel au début. Donc, l'intersectionnalité, c'est ce qui regroupe des mouvements qui... n'ont pas forcément vocation à s'unir sur, enfin, ce qui ont des causes, on va dire, différentes. On a vu, notamment à Paris, une intersectionnalité qui s'est mise en place sur la mobilisation, avec notamment une forte mobilisation des personnes racisées et des personnes issues de quartiers populaires. Est-ce que ça a été à peu près la même chose à Tours? Et est-ce que dans votre façon de lutter sur cette loi, cette loi-là, entre guillemets, est-ce que tu penses que c'est peut-être un moment, toi, où on atteint justement cette convergence des luttes qu'on a essayé d'avoir sur d'autres mouvements, que ce soit les gilets jaunes, les luttes écologiques, etc. Mais est-ce que finalement cette question de la police qui focalise beaucoup de luttes en commun, mine de rien, est-ce que ça, c'est chez vous en tous les cas l'occasion d'une convergence des luttes à l'occasion de cette mobilisation-là?
Ouais, je pense. En tout cas, à mon avis, il y a deux choses. Bon, en termes de présence vraiment de personnes racisées, bon, je vous avoue, j'ai pas eu le sentiment qu'il y en ait eu particulièrement plus que d'habitude. En revanche, il y a eu beaucoup plus de jeunes, enfin de personnes qui ont l'âge de lycéens, d'étudiants et de jeunes précaires, même sans doute, je les connais pas. Ouais, on a une nouvelle population, enfin on a des gens qu'on voyait pas en manif auparavant, beaucoup de jeunes personnes. Donc ça c'est certain. Par rapport à la convergence des luttes, en tout cas, est-ce que cette mobilisation-là, elle est capable de la mener? Je pense que c'est impossible de penser en France la question policière sans l'articuler avec le racisme. C'est-à-dire, c'est vraiment c'est une des fonctions principales de la police, en fait, que de maintenir cet ordre raciste. Donc c'est au-delà même de savoir si les luttes elles convergent, je pense que là on est sur un sujet où les luttes elles sont vraiment liées et indissociables, il n'y a même pas à faire un effort pour les faire converger, quoi. Bah, nous, dans notre communication, on essaye de porter le fait que c'est deux choses qui sont parfaitement liées. On revendique bien que lutter contre les violences policières, c'est lutter en partie également contre le système raciste. Et le fait que, donc à Tours ou ailleurs, ça ait pu attirer plus de personnes racisées, peut-être plus de jeunes, etc., c'est parce que on est en tout cas ici pas dans une... On a vu ça, tu parlais des luttes précédentes. Des fois, on parle de convergence des luttes. En fait, ce qu'on attend, c'est de dire allez, s'il vous plaît, les gens de banlieue, venez militer avec nous au centre-ville, quoi. Mais sans forcément faire d'efforts, sans s'intéresser à leurs revendications, sans même aller militer sur leur terrain, tout simplement. Là, en l'occurrence, on trouve naturellement un terrain commun, quoi. Les gens savent qu'une police qu'on ne peut plus filmer, une police qui est plus puissante, en fait, ça joue directement contre leurs intérêts. Et donc, ils viennent, tout simplement, la convergence, elle se fait parce que le mot d'ordre... Et déjà convergent, enfin, je sais pas. Je sais pas si j'ai répondu à la question exactement.
Si, tout à fait. Merci beaucoup Clément. Et du coup, tu nous parlais de beaucoup de jeunes et de nouvelles personnes qui viennent en manif et qui se mobilisent face à ce projet de loi. Et justement. Donc ça veut dire une population assez forte qui n'est peut-être pas encore politisée comme tu peux l'être ou comme on peut l'être dans nos milieux militants de gauche. Et du coup, qu'est-ce que c'est les stratégies qui sont mises en place par l'UCL pour mobiliser au sein des manifs et pour mobiliser de manière générale?
De toute façon, pour mobiliser, ce qui marche le mieux, c'est le travail d'information essentiellement. C'est-à-dire, c'est par l'affichage, c'est par le tractage, c'est par simplement le fait de rencontrer les gens, de prendre la parole ici sur cette radio et d'essayer de porter un message, même autour de nous, en fait, pour dire un message d'explication, même de la loi, même alors pas de manière aussi précise sans doute que celle de l'intervenante précédente, de Madame Théillot. On essaie de convaincre les gens donc de venir manifester tout simplement. Après, pardon, je crois que j'ai un petit peu perdu le fil de la question exacte. Ah oui, les stratégies mises en place. Attendez, pardon, j'ai eu une hésitation. Même au sein des manifestations, c'est par exemple par la vente. La vente du mensuel Alternative Libertaire ou même qui en fait attire et intéresse beaucoup les gens. On apporte aussi quand on le peut un soutien logistique, donc ça peut être par le fait tout bêtement d'amener des autocollants parce que les personnes qui militent peu sont souvent assez friandes de ça, qui leur permet de s'impliquer simplement dans la lutte, alors que en fait elles arrivent un peu les mains dans la poche, dans les poches, elles savent pas forcément quoi faire, elles sont curieuses, elles ont des questions, et donc c'est un accompagnement en fait qui se fait souvent pour nous, en tout cas, au sein de la lutte, en tout cas. Mais j'ai l'impression de m'être un peu perdu dans ce que je disais.
Non, pas de souci. Je pense que c'était assez clair. Et du coup, qu'est-ce que tu ressens pour la suite de ces mobilisations? Et comment est-ce que va se positionner l'UCL par rapport à cette suite éventuellement, donc pour samedi prochain et pour un futur éventuel à ces mobilisations?
Nous on sera présents, en tout cas si tant que les manifestations continuera, on sera là. Donc là pour le coup, il y a pas vraiment de questions à se poser, en tout cas de notre côté. Comment on voit la suite? Personnellement, je suis assez optimiste. On l'a dit, que ça rassemble des gens qui viennent de quantités d'horizons différents, avec des arguments qui sont très variés, qui ne se situent pas tout à fait sur les mêmes bases politiques, même tout simplement. On voit qu'il y a des questions de est-ce que la loi elle est constitutionnelle, est-ce que c'est en accord avec le droit international. Enfin, moi, je ne sais pas, je ne suis pas compétent, mais en tout cas, j'en ai entendu parler. Donc, il y a des attaques qui viennent de toutes parts et qui laissent à penser que le gouvernement aura de grandes difficultés, en tout cas, à faire avancer ce projet de loi. Donc, moi, je pense que ça va continuer, que cette bonne humeur, cette galvanisation dont j'ai parlé, que j'ai observé à Tours, elle augure de bonnes choses. Quoi, on est au tout début du mouvement, les gens sont motivés, on vient tout juste de déconfiner. Et malgré ça, malgré l'anxiété ambiante, en fait, les gens sont présents et ils ont envie de faire des choses. Quoi. Donc, et par rapport à... Oui, c'était ça, j'ai répondu par rapport à l'UCN. Donc, très optimiste, ouais. Je pense que la suite va bien se passer pour nous, en tout cas pour notre camp social.
Mais tant mieux, c'est ce qu'on espère toutes et tous, et que ça soit le cas, continuer en tout cas à vous mobiliser aussi... pas uniquement à Paris, hein, on en parlait, c'est important aussi de faire pression à travers les différentes mobilisations dans les villes de France. Il y a un de tes propos sur lequel Madame Théo voulait réagir. Tu as dit tout à l'heure, la police est là pour maintenir un ordre raciste. Madame Théo voulait réagir sur ce propos-là. Madame Théo, je vous laisse la parole.
Oui, parce que en tout cas pour la Ligue, nous ne sommes pas contre la police. C'est pas du tout notre propos et nous pensons. Enfin, c'est une grille d'analyse, hein, et je respecte. Mais en ce qui me concerne, par exemple, je n'ai pas une analyse selon laquelle on aurait affaire à un État raciste. C'est beaucoup plus complexe à mon avis. Et nous ne sommes pas non plus contre la police en soi. C'est juste que nous voudrions qu'il y ait une police vraiment républicaine et qui respecte la loi, tout simplement, alors que jusqu'à présent, elle est couverte par une certaine impunité et elle prend de plus en plus du coup de pouvoir, même par rapport au pouvoir exécutif. C'est ça qui pose problème. Elle doit être soumise à la loi et de ce fait, on doit également pouvoir condamné lorsqu'il y a des actes racistes qui sont perpétrés, et c'est une évidence. Mais on voit aussi la difficulté pour les lanceurs d'alerte de l'intérieur de la police à dénoncer soit des exactions, soit des propos racistes, ce qui également fait que nous soutenons les lanceurs d'alerte policiers. Nous essayons de demander à ce que la directive européenne qui protège un petit peu mieux que la loi actuelle sur les lanceurs d'alerte soit immédiatement transposée, par exemple.
D'accord, ok, merci. Et du coup, Clément, si jamais tu voulais peut-être en parler rapidement, répondre rapidement, puis après on va conclure.
Ouais, je pense que comment dire. Enfin, d'une part, ça montre ce que je disais juste avant, qu'en fait cette loi-là, elle réunit en tout cas contre elle des gens qui ont même qui partent de bases politiques qui sont assez opposées, et donc c'est une bonne chose. Après, je pense qu'on a simplement un désaccord, et à mon sens, ce qu'on défend à l'Union communiste libertaire, c'est également en fait l'abrogation des lois sécuritaires d'une manière générale, pas uniquement simplement la loi sécurité globale. On vise un désarmement en fait de l'ensemble des forces de l'ordre. Et d'une manière générale, alors je ne sais pas à quel point je m'exprime en nom personnel, au nom du groupe local, au nom du groupe fédéral, mais je pense que une des raisons pour lesquelles il faut se battre contre les lois de ce type, c'est que la police, à mon sens, elle fait obstacle en fait à ce qu'on pourrait appeler, avec des gros mots, le progrès social, quoi, et qu'elle défend des institutions qui sont racistes, capitalistes, sexistes, patriarcales, etc. Et que plus on protège la police, et plus ça rend difficile le fait d'obtenir des avancées. Et donc à ce titre, moi je pense qu'il faut protéger la police le moins possible, en fait, parce que l'obstacle sera plus facile à surmonter de cette manière. Mais voilà. Mais j'entends qu'on soit pas tout à fait d'accord avec Nathalie Théo.
Et ben du coup c'est aussi vous en avez l'habitude, je pense, pour celles et ceux qui nous écoutent. Il y a des différences de position sur les différentes organisations qui militent. Le principal, c'est de garder l'objectif qui est le nôtre, qui est de continuer à se mobiliser contre la loi sécurité globale. Il y aura toujours des désaccords. N'hésitez pas, en tous les cas, si jamais vous voulez continuer à échanger, à interagir avec nous sur les réseaux sociaux. En tout cas, merci Clément de ton intervention.
Ah ouais, merci à vous de m'avoir invité.
Eh bien oui, merci beaucoup Clément, et très chers pirates, nous arrivons tout doucement vers la fin de cette émission. Merci vraiment beaucoup à nos invités d'avoir bien accepté de venir nous parler de cette mobilisation et des futurs potentiels de celle-ci. On remercie, merci beaucoup Nathalie Théo d'avoir bien accepté de nous parler ce soir.
Merci beaucoup. Bonne soirée.
Bonne soirée à vous et merci, merci à toi aussi, Clément.
Merci.
Demain, on se retrouve sur Radio Pirates pour une émission Poésie révolutionnaire, Poésie noire et Poésie des Suds avec Missa et Jazz. Nous nous dirigeons vers la côte, tout droit vers la côte, mais avant d'accoster, on va écouter une dernière musique, ce sera Violence de Gros Colon, et à très bientôt sur Radio Pirate.
Paix et fraternité, mets cette arme sur toi est la preuve que tu pratiques la violence. Violence égale l'ignorance, mais je suis venu à toi pour te sauver. Bien d'être brutal, sauf la violence morale, la violence du capital, la violence du mal. Casser un carreau est le pire des mots. Pour simplifier l'exploitation, on casse du boulot. Mais faut pas crier, il faut écouter. Accepter le capital, soumission totale. La violence c'est mal, la violence c'est mal. Oh la violence c'est mal, la violence c'est mal.
La violence c'est mal, c'est vrai, pourquoi se défendre? Mieux vaut apprendre à encaisser les coups sans jamais les rendre. Enfin, la violence c'est mal, insensé et bestial. Tout citoyen devrait compter sur la justice impartiale. La violence c'est pas bien, enfin parfois il en faut. Un peu pour éteindre le feu allumé par des prolos. Ramener tous ces moutons dans le troupeau et rétablir l'ordre. Les mater à coups de bâton pour éviter que ça déborde. La violence c'est mal, pourquoi casser, caillasser du flic alors qu'on peut voter pour une révolution pacifique. Rien de plus criminel que des voitures qui crament. Ils n'ont qu'à exprimer leur colère dans des ateliers slam. La violence c'est pas bien, même quand on tue l'un des tiens. Faut savoir pardonner, après tout on est un pays chrétien. En fait la violence c'est mal, sauf quand elle est patronale, étatique, carcérale, patriarcale, néocoloniale.
La violence c'est mal, la violence c'est mal. On nous rabâche sur tous les tons que la violence c'est mal. Ta colère ravale, ta douleur ravale. La violence du capital c'est un état normal. La violence c'est mal, ta violence c'est mal. Ta violence c'est mal, ta violence c'est mal.
Certaines communes et certaines parties de communes pourront donc se voir appliquer des mesures d'interdiction ou de restriction de la circulation des personnes ou des véhicules. Le refus de s'y soumettre pourra donner lieu à des sanctions pénales pouvant aller jusqu'à 2 mois d'emprisonnement.